gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité aujourd'hui a grandi sur une ferme laitière du village de Saint-Ours en Montérégie. Une enfance heureuse qui allait peut-être lui donner cet air sympathique de bon garçon auquel le public s'est attaché au fil des ans. Ce garçon de bonne famille. Il boit peut-être toujours son verre de lait, qui sait, mais aujourd'hui il a une famille très large, celle qui occupe la sphère virtuelle et qui n'a plus de frontières. Avec nous, Dominique Arpin, bonjour.
Salut Armand, j'adore ta présentation.
Est-ce que vous buvez toujours votre verre de lait?
Oui, mais là je le prends écrémé aujourd'hui, ce qui est une honte pour mon père, qui nous a habitués à du bon lait riche et gras. Moi je me souviens d'avoir commencé à boire le lait à même la chaudière là, à la ferme là, quand mon père traitait les vaches. Donc, il y avait une petite couche de crème là, sur le dessus. Alors ça, c'était ça le lait.
Le bon lait chaud.
Le bon lait chaud qu'on buvait à la maison. Alors qu'aujourd'hui, surtout avec la blonde et les enfants, là, on y va avec des laits raffinés, dirons-nous.
Mais ce sont de beaux souvenirs d'enfance que d'avoir été élevé sur une ferme laitière.
Oui, et je pense que ça explique beaucoup qui je suis encore aujourd'hui, le fait que j'ai grandi sur une ferme laitière. Je pense que le bagage de valeurs que j'ai aujourd'hui, la vision que j'ai aussi du métier, s'apparente beaucoup à ce que j'ai vu mon père faire pendant toute mon enfance. Et le fait de vivre à la campagne m'a fait peut-être encore plus apprécier aujourd'hui la vie urbaine, parce que j'ai longtemps été l'explorateur urbain au réseau TVA. J'ai toujours eu une fascination pour la vie urbaine, mais je pense que cette fascination-là venait du fait que j'ai grandi dans un petit rang, le rang de la Basse à Saint-Ours, dans le milieu des champs avec...
Mais vous en êtes sorti quand même, parce qu'à la période du secondaire, vous avez été en collège privé.
Oui.
À Laval, au collège Laval.
Oui.
Donc, très loin de la maison.
Oui, bien, j'ai souvent été attiré dans des aventures par des amis. Comme le collège Laval, c'est que mon meilleur ami avait décidé qu'il allait aller étudier là-bas. Puis, sa famille avait une maison à Saint-Ours et une autre à Laval. Et donc, j'ai décidé d'aller le suivre là-bas pour...
Vous étiez un suiveux.
Oui, assez. Puis même dans l'armée, ça s'est passé un petit peu comme ça. Mais bref, je me suis ramassé au Collège Laval en grande partie parce que j'avais un ami là-bas. Sauf que j'ai comme réalisé que moi, j'allais devoir être pensionnaire. Donc, j'ai fait ma première année de secondaire au Collège
Laval. Est-ce que vous proveniez d'une famille nombreuse?
Non, on est deux enfants à la maison. J'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi, Josée. Et donc, une petite famille... Et une famille assez serrée qui a vite réalisé que la ferme ou la terre, c'était pas pour nous, ni moi, ni ma sœur. Là, très, très jeune, on a su qu'on n'allait pas prendre la relève familiale.
Ça devait être une grande déception pour le papa, la maman, non?
Je dirais que non, André, parce que mon père a pris, lui, la relève de son père. Et je pense qu'il le fait en grande partie parce qu'à cette époque-là, il y avait cette pression sociale.
Mais c'était pas un choix naturel.
J'ai jamais senti que c'était un amour viscéral. Donc, quand moi, j'ai manifesté le désir de faire autre chose dans la vie, j'ai pas senti qu'il me mettait des...
Il n'y avait pas d'objection de la part de papa. Là.
Au contraire.
Et est-ce que vous avez senti très, très rapidement que vous iriez un jour dans les sentiers non explorés, c'est-à-dire la grande ville, plutôt que de patauger dans le même patelin, avoir un commerce, ça aurait pu être cela,
ouais.
Ou exercer une profession libérale dans le même village, comme ça survient souvent. Est-ce que c'était déjà inscrit dans vos gènes?
Je pense que très jeune, j'ai senti le besoin de me sortir de ce milieu-là. Et je ne le dis pas de façon péjorative, je savais que c'était pas pour moi. Je savais que j'avais besoin d'autres choses dans la vie. Et rapidement, c'est pour ça que j'ai quitté le domicile familial. Je suis allé au collège militaire, j'avais 16 ans, et je suis jamais revenu à la maison par la suite.
Mais avant le collège militaire, on va entendre une chanson qui va sûrement vous rappeler un souvenir d'enfance.
De Dominique et Nika s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, ils parcourent l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu.
Donc, cette chanson-là, pour moi, elle a une signification vraiment particulière. Ça me touche beaucoup de la réentendre. C'est la berceuse que ma mère me chantait le soir pour m'endormir. Et pendant des années, j'ai cru que ma mère avait inventé cette chanson-là pour moi.
Alors, le nique-nique-nique, c'est une berceuse.
Oui!
On apprend ça aujourd'hui.
J'avais vraiment l'impression que c'était une chanson qu'elle avait composée pour m'aider à m'endormir le soir, alors que j'ai découvert plus tard que c'était Sœur Sourire.
Ça traduit quand même un peu votre âge, parce que Sœur Sourire a eu ce méga succès en 1963.
63. Moi, je suis né en 70. Donc, c'était déjà un succès souvenir à l'époque que ma mère me chantait. Ma mère a beaucoup, a toujours aimé chanter. Elle faisait partie de la chorale à l'église. Et puis, cette chanson-là, pour elle, là, c'était un bonheur de me la chanter quand j'étais tout petit.
La personne qui nous parle, c'est bien sûr Dominique Carpin. Vous l'avez sûrement reconnu. Dominique, vous parlez de la chanson de Dominique aussi. Vous avez été élevé donc dans un milieu profondément religieux, ou à tout le moins où il y avait de la piété.
Oui. En fait, moi, je me considère encore aujourd'hui comme un catholique peut-être moins pratiquant.
Oui, mais pratiquant. La pratique religieuse, c'est la charité, c'est la générosité. Alors, vous êtes pratiquant.
Oui, mais je parle là, du rituel catholique avec les cérémonies religieuses, la messe du dimanche. Moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, je suis allé à la messe à tous les dimanches. Et d'ailleurs, je me plais à dire que si je fais ce métier-là aujourd'hui de communicateur, c'est en grande partie à cause de la messe du dimanche. Parce que moi, ma mère m'amenait à la messe et rapidement, elle m'a demandé si ça m'intéressait de m'impliquer dans la vie religieuse. Et donc, je me souviens que, je pense que j'avais 8-9 ans, je faisais les lectures à la messe du dimanche devant. Et là, à l'époque, là, l'église de Saint-Ours, là, c'était bondé. Là. Il y avait 200-300 personnes dans l'église. Je me rappelle encore de monter au lutrin avec mon livre et faire les lectures aux apôtres. Et c'est vrai, ça a été mon premier contact avec un auditoire et mon premier contact avec le plaisir de manier la langue. Et je pense que ça, encore aujourd'hui, ça me sert.
Vous voyez, ça mène à tout d'aller à l'église.
Oui, tout à fait.
C'est peut-être pour ça que parfois, j'imagine que vous avez encore des jasettes avec le Très-Haut. Il en reste quelque chose quand même.
Oui, j'ai encore ce besoin-là de lui parler, de me sentir écouté, réconforté. Je te dirais que la dernière fois où j'y ai parlé très sérieusement, c'est il y a 2 ans, là, quand j'ai appris que j'avais un cancer. Donc, c'est souvent dans ces occasions-là, c'est un peu bête, là, mais qu'on réalise qu'on a besoin d'être sécurisé par cette présence-là. Et je suis allé à quelques reprises à l'église pendant cette période-là.
On pourra revenir sur cet épisode, mais puisqu'on parle de jasette avec celui qui est là, très haut, il y a Kevin Parent qui a écrit une belle chanson que vous nous proposez, ouais. Probablement pour ces raisons.
J'aime beaucoup Kevin Parent, j'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là, et je trouvais ça intéressant de vous la présenter.
Dire, me promets-tu que tu feras pas de rire en me disant que je suis perdu? Tu sais que Dieu est déjà venu, bon ben il revient demain pour son compte rendu. Qu'en penses-tu? Viens pas me niaiser, tu le sais autant que moi, ça fait plus de 2000 ans que ça traîne tout ça. Il revient-y pas, pour croire, faut voir, moi je suis comme Thomas. Ben moi j'ai à moitié des romans, oui je commence à prendre conscience de mes torts, puis je pense qu'il nous a fait confiance pour maintenir l'ordre dans nous, comme en dehors. Proposé juste un paquet d'histoires de tout bord, tout côté. C'est normal que j'en doute, pis que j'aime aller à force de voir les Saint-Pierre tous les jours à TV. Toi, t'as beau te croire qu'il est de face, moi je te dis que c'est l'humain qui a une religion pour chaque race. C'est comme si le paradis c'était un gros show, puis tout le monde s'entretue pour avoir une bonne place. Il nous a donné de terre pure, les ressources nécessaires pour un prochain futur. Pour arrêter la masse qui enfonce les clôtures, faut ouvrir bien les yeux puis convaincre les têtes dures. Yeah. En tout cas, si c'est vrai qu'il revient demain, serais-tu prêt à nous donner un coup de main?
Ça a été un grand succès, ça, de Kevin Parent, Seigneur, Seigneur. Ouais. Mais en fait, c'est une belle conversation parce qu'il exprime ses doutes, mais en même temps, il exprime aussi, d'une certaine manière, la foi qu'il aimerait avoir.
Effectivement, et ça me rejoint beaucoup.
Et ça nous ressemble un peu beaucoup à tous. Bon, alors, on va quitter le milieu familial. Vous vous retrouvez ensuite dans l'armée. Là, vous avez 16 ans.
Exact.
Pourquoi cette carrière, ou envisagiez-vous peut-être faire carrière au plan militaire? Ça nous étonne un peu.
Encore l'histoire du suiveux, ça, Armand. Parce que mes chums au secondaire, sur un coup de tête, ont décidé de s'inscrire au collège militaire. D'une part, les études étaient payées. On était logés, nourris, puis dans le cas de certains de mes amis, ça voulait dire quelque chose. Donc, j'ai décidé de les accompagner. On est allé passer, je me souviens encore, c'était une de mes premières visites à Montréal. Là. Tu sais, c'est le petit gars de Saint-Ours là, qui arrive à Montréal, qui va passer les examens physiques, les examens psychologiques, les entrevues, tout ça. Et je suis le seul qui a été accepté. Tous mes amis ont échoué les tests.
C'est vrai.
Et donc, eux sont allés au cégep boire de la bière puis s'amuser avec leurs amis, alors que moi, je me suis ramassé à ramper dans la boîte au Collège militaire royal de Saint-Jean. J'avais trouvé ce coup-là que j'avais un peu raté mon coup. Quoique, après quelques mois là, d'adaptation, j'ai décidé de profiter de ça.
Vous y êtes resté combien de temps?
Un an. Donc, j'ai fait
une grosse année.
Ça a été une grosse année. Vraiment, en plus, les gens qui connaissent l'armée, la première année, c'est la pire. Les deux premiers mois, lavage de cerveau, là, je sais c'est quoi aujourd'hui. Là.
Qu'est-ce que vous retenez, parce que vous parlez de lavage de cerveau, mais il y a sûrement des choses positives que l'on retient d'une telle rigueur, parce que c'est très exigeant, physiquement, mentalement, parce qu'on essaie de nous casser sous tous les plans pour, en fait, construire une personnalité qui sera apte à faire face à l'adversité.
Oui, puis à se mouler au groupe. Ce que j'ai appris, d'une part, c'est l'importance de la discipline, l'importance du temps aussi, de l'organisation. Puis je pense que dans le métier que j'exerce aujourd'hui, ça me sert encore cette importance-là de se faire des plans aussi puis de les suivre. Parce que si on le faisait pas, on n'arrivait pas au résultat qui était exigé de la part des officiers.
Vous êtes un être discipliné?
Étonnamment, oui. Je suis quelqu'un qui peut avoir l'air assez dissipé quand on l'écoute, mais je suis quelqu'un, oui, qui est très, très discipliné, qui est très rigoureux, puis qui est surtout très travaillant.
Et ça, je peux en témoigner, parce que nous avons été à une certaine époque collègues.
Est-ce que c'est une époque lointaine?
Ah, il y a très longtemps. Je pense que la voiture n'avait pas encore été inventée. Mais vous étiez effectivement un grand, grand travaillant, un grand travailleur, toujours méticuleux dans la finition de vos reportages. Vous vouliez y mettre une touche également, la touche Dominique Arpin.
Mais moi, je souffre du syndrome de l'imposteur depuis toujours. Je sais que je suis pas
vous
seul.
Vous aussi.
Oui, il y en a plusieurs. Là. C'est pas du
Parce
tout original.
On a reçu l'année dernière Gilbert Rozon.
Qui disait la même chose.
Il disait la même chose. Voilà. Après plusieurs années de succès avec son festival Juste pour rire, il a dit « Je suis un imposteur ».
Mais ça fait en sorte qu'on se questionne toujours sur le métier qu'on pratique et on veut s'améliorer. Moi, dans le métier, là, ça fait quand même 25 ans que je le pratique. J'en ai vu du monde passer. Et j'en ai vu des gens talentueux, pas travaillants, qui aujourd'hui, on les voit plus, on les entend plus.
Puis ils sont pas travaillants.
Je trouve ça dommage parce qu'ils avaient un talent naturel. Ouais. Moi, j'estime que j'ai quand même un talent, mais je sais que pour arriver à mes fins, il faut que je travaille plus fort que la moyenne. Tu sais, je suis comme, des fois, j'ai l'impression d'être sur le deuxième trio, là, puis d'admirer les Wayne Gretzky dans cette ligue-là, mais je suis capable de marquer des buts, moi aussi.
Alors, le deuxième trio a aussi des choix éclectiques au plan musical. Là, vous nous amenez dans un autre univers. On est loin de Dominique Nick.
Non, là, on est... Ben, en fait, je suis allé avec des chansons marquantes de certaines époques de ma vie. Ça, Duran Duran, c'est évidemment les années 80, c'est mon adolescence. Là. C'était le boys band de l'époque, donc j'ai vraiment trippé là-dessus. Je me peignais comme eux autres. Je m'habillais comme eux autres. Puis ça a été, je pense, le premier spectacle aussi que je suis allé voir à Montréal. Donc, je trouvais ça sympathique de vous faire entendre ça.
Why?
Duran Duran, The Reflex, et c'est un choix proposé par Dominique Arpin, qui ça lui rappelle sa tendre adolescence.
Mais je trouve ça drôle qu'on ait fait jouer ça à Radio Ville-Marie, c'est sûr que ça aussi, mais je trouve ça sympathique.
Mais vous savez que Radio VM, maintenant, comme on l'appelle, est une radio qui est ouverte sur le monde,
voilà.
Ouverte sur plusieurs univers.
C'est tout à son honneur.
Alors que vous, vous vous retrouvez dans une autre radio qui est aussi en transformation, peut-on ouais. dire. Vous y êtes depuis déjà quelques temps. À l'animation du matin, ça, c'est tout un défi que d'animer une émission matinale.
Oui, bien, ça revient à ce que je disais tantôt sur le syndrome de l'imposteur. Pendant des années, j'ai été chroniqueur sur l'émission de Paul Arcan, qui est un être pour qui je voue un véritable culte. Là, c'est un des grands communicateurs, des grands gars de radio de la province. Donc, j'ai été en contact avec lui pendant 4 ans. J'avais pas la responsabilité de l'émission sur les épaules. Je venais faire ma chronique et j'ai participé quand même à l'émission la plus écoutée au Canada. Mais j'avais l'impression que je ne m'accomplissais pas encore assez. Et je voulais me prouver à moi puis prouver aux autres que j'étais aussi capable d'être le morning man d'une émission.
Mais on vous a sollicité aussi, vous étiez désiré.
Oui, oui, effectivement, ça faisait déjà quelques mois que la direction d'énergie faisait des démarches pour m'attirer sur l'émission du matin. J'ai déjà travaillé à Énergie, il faut le préciser, il y a quelques années. J'ai fait cette émission-là en remplacement de l'équipe régulière. Donc, je connaissais la gang. Je savais que c'est une émission dans laquelle j'allais fitter. Mais en même temps, là, la pression est beaucoup plus forte. Là.
Quelle est la recette pour avoir cette vitalité, cette vivacité d'esprit aussi, tous les matins, parce que vous vous levez tôt? Vous devez être au fait de l'actualité, donc il faut éplucher rapidement les nouvelles dans les journaux, les premières éditions qui sortent en plein milieu de la nuit.
Ouais.
Puis il faut aussi avoir ce sens toujours de pouvoir communiquer une certaine humeur positive parce que les gens se lèvent le matin, s'en vont travailler, ne sont pas toujours très heureux d'y aller. Quelle est la recette?
Bien, d'une part, il faut se coucher tôt. Ça, je pense que c'est le secret d'un bon morning man. C'est quelqu'un qui ne doit pas veiller trop tard. Donc, moi, je suis couché à 8 heures.
C'est embêtant, ça, parfois, non?
Bien, ça fait déjà plusieurs années que mon fils, qui a maintenant 12 ans, se couche avant son père. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, ça nécessite des sacrifices. On en rit beaucoup, là, mais... Morning man, ça veut dire que tu n'as plus de vie sociale la semaine. Et la fin de semaine, ta vie sociale est affectée aussi parce que le vendredi soir, quand il est rendu 9h, 9h30, tu es debout, toi, depuis 3h, donc tu es aussi fatigué. Donc, ça nécessite cette rigueur-là d'avoir une hygiène de vie, là, si je peux utiliser l'expression, qui est quand même assez exceptionnelle, bien manger. Bon, ça, c'est pour ce qui est de l'aspect physique. Pour ce qui est de l'aspect de l'humeur ou des sujets abordés, moi, je suis un boulimique d'informations. J'ai mon téléphone dans la main perpétuellement. Donc, quand j'ai 5 minutes, c'est sûr et certain que je l'utilise à chercher un sujet pour le lendemain ou approfondir un sujet qu'on a déjà décidé en gang qu'on allait aborder. Je suis un curieux infatigable. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient.
Écoutez. Et vous avez au moins l'avantage d'éviter l'heure de pointe à tous les matins.
Ça, c'est fantastique.
Pas de valse hésitation sur le chemin à prendre. On va terminer ce premier bloc avec la valse d'Amélie.
Ah, j'adore. Ouais, ça vient d'Amélie Poulain.